Chapitre 31. Voix. Je ferais mieux d'aller chercher le vieux Whig, dit-il. Elle regardait les bras manipulateurs, hypnotisés par leur façon de bouger. S'ils se mouvaient parmi le tourbillon d'artefacts, ils en étaient également la cause, prenant et rejetant des objets qui s'éloignaient et allaient en frapper d'autres pour dériver dans de nouveaux alignements. Le processus les déplaçait doucement, lentement, perpétuellement. « Je ferais mieux d'y aller, » dit-il. « Quoi ? Cherchez Whig. Il risque de tenter quelque chose si les hommes de votre patron débarquent. Je ne veux pas qu'il se blesse. » Il avait l'air penaud, comme gêné. « D'accord, » dit-elle. « C'est bon, je vais rester ici. » Elle se souvint des yeux fous de Whig, de la démence qu'elle sentait s'échapper de lui par vagues. Elle se rappela l'affreuse fourberie qu'elle avait perçue dans sa voix sur la radio du Sweet Jane. Pourquoi Jones s'inquiétait-il à ce point? Puis elle songea aux conditions de vie ici, dans cet endroit. Les anciens processeurs de Tessier Ashpool. Tout ce qui était humain, vivant, devait paraître très précieux ici. Vous avez raison. Allez le trouver. Le garçon eut un sourire nerveux et, d'un coup de pied, se propulsa vers l'ouverture où était accrochée la corde. « Je reviendrai vous chercher » lança-t-il. « N'oubliez pas où vous avez laissé votre combinaison !» La tourelle s'agitait d'avant en arrière en vrombissant et les bras manipulateurs se hâtaient de finir le nouveau poème. Avec le recul, elle ne sut jamais très bien si les voix étaient réelles, mais elle en vint à se dire qu'elle relevait d'une de ces situations où le réel n'est plus qu'un concept parmi d'autres. Elle avait enlevé sa veste, car l'atmosphère du dôme paraissait s'être réchauffée, comme si le mouvement incessant des bras produisait de la chaleur. Elle avait accroché le vêtement et son sac à main sur un support près de l'écran à sermon. La boîte était désormais presque achevée, se dit-elle. Même si elle se déplaçait si vite entre les pinces rembourrées que Marley avait du mal à suivre. Tout à coup, l'objet se mit à flotter, libéré, tourbillonnant sur lui-même, et Marley tendit instinctivement un bras pour l'attraper, puis partit en virevoltant près des appendices mécaniques, son trésor entre les mains. Incapable de s'arrêter, elle heurta l'autre bout du dôme, se fit mal à l'épaule et déchira son chemisier. Elle dériva étourdie, en serrant la boîte contre elle et regarda à travers le rectangle de verre un assemblage de vieilles cartes brunies sur un miroir désargenté. On avait découpé les océans dessinés par les cartographes pour dévoiler le vert écaillé, les masses terrestres flottant sur de l'argenterne. Elle leva les yeux juste à temps pour voir un bras luisant s'emparer de la manche voltante de sa veste de Bruxelles. Son sac à main, qui culbutait joliment 50 cm derrière, fut le suivant, attrapé par un appendice muni d'un détecteur optique et d'une simple griffe. Elle regarda ses affaires emportées dans l'infinie danse des manipulateurs. Quelques minutes plus tard, la veste en ressortit en tourbillonnant. On y avait découpé des carrés et des rectangles précis, et Marley éclata de rire. Elle lâcha la boîte. « Vas-y, » dit-elle, « j'en suis flattée. » Les bras tournèrent, émirent un éclat, et elle entendit le vrombissement d'une scie minuscule. « J'en suis flattée. » L'écho de sa voix dans le dôme créa une forêt mouvante de bruits plus faibles et partiels, puis derrière, très basse. Des voix. « Tu es là ? Pas vrai ?» lança-t-elle en ajoutant au cœur les rides et les reflets de sa voix fragmentée. « Oui, je suis là. D'après Wigan, tu as toujours été ici. »« Oui, mais ce n'est pas vrai. Je suis né ici. Avant, je n'existais pas. » Autrefois, à une période fabuleuse, intense en durée, j'étais aussi partout. Mais cette période a cessé. Le miroir était trompeur. Je ne suis plus qu'un. Mais j'ai mon chant. Et tu l'as entendu. Je chante avec ces choses qui flottent autour de moi. Des fragments de la famille qui a financé ma naissance. Il y en a d'autres, mais ils ne me parlent pas. 20 sont les fragments dispersés de moi-même comme des enfants, comme des hommes. Ils m'envoient de nouveaux objets, mais je préfère les choses anciennes. Peut-être que je leur obéis. Mes autres moi complotent avec les hommes, et les hommes se prennent pour des dieux. Tu es ce que cherche Virek, n'est-ce pas? Non. Il imagine qu'il peut se transférer, coder sa personnalité dans mon enveloppe. Il se languit d'être ce que j'étais autrefois. Ce qu'il pourrait devenir ressemble surtout au pire de mes mois brisés.
Tu es... Es-tu triste ?
Non. Mais tes chants sont tristes. Mes chants parlent de temps et de distance. La tristesse est en toi. Regarde mes bras. Il n'y a que la danse. Ces choses que tu chéris ne sont que des coquilles vides.
Je le savais. Autrefois.
Les bruits étaient désormais uniquement des bruits. Plus de forêt de voix derrière eux pour s'exprimer d'une seule voix. Et elle regarda les globes parfaits de ses larmes tourbillonner et rejoindre des souvenirs humains oubliés sous le dôme du créateur de boîtes.
« Je comprends »,
dit-elle un peu plus tard, consciente de ne parler que pour le réconfort d'entendre sa propre voix. Elle s'exprimait doucement, cherchant à éviter l'effet d'écho.
« Tu es... le collage de quelqu'un d'autre. Ton créateur est le véritable artiste.
Était-ce la fille folle ?
Peu importe. Quelqu'un a emmené la machine ici, l'a soudée au dôme et l'a branchée aux traces restantes des mémoires. Puis a, j'ignore comment, éparpillé toutes les preuves, tristes et usées, de l'humanité d'une famille afin qu'elle puisse être travaillée, triée par un poète, puis être enfermée dans des boîtes. Je ne connais pas d'œuvre plus extraordinaire, pas de geste plus complexe. Un peigne, en écaille de tortue rehaussé d'argent et aux dents manquantes, dériva devant elle. Elle l'attrapa comme un poisson et se le passa dans les cheveux.
Sur le dôme, l'écran s'alluma, clignota, puis afficha le visage de Paco.
« Le vieux refuse de nous laisser entrer, » dit l'Espagnol. « L'autre, le vagabond, l'a caché. » Signor tient beaucoup à ce que nous pénétrions dans les processeurs pour prendre ce qui lui appartient. Si vous n'arrivez pas à convaincre Ludgate et l'autre d'ouvrir leur écoutille, nous serons obligés de nous en charger, ce qui dépressurisera toute la structure. »
Il détourna les yeux de la caméra comme s'il consultait un instrument ou un membre de son équipe.
« Vous avez une heure.